Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Faites Valser vos idées, l'émission qui secoue les ménages sans se prendre la tête. On commence tout de suite avec Max et Mélanie.
Salut les escapadés, les escalopes et rescapés malades. Vous qui souffrez de manque d'amour, nous avons encore aujourd'hui, spécialement pour vous, cher public, de nouvelles interviews trop stylées du bon gros micro-trottoir comme vous aimez. Pourquoi trottoir, me direz-vous, et quel rapport avec notre sujet ? Nous le saurons peut-être grâce aux réponses que nous avons pu glaner de ci de là à cette question que nous vous posons déjà depuis 3 mois. Y a-t-il besoin de trottoir pour trouver l'amour ? Ou d'application pour le micro ? Quelle est donc la recette du bonheur en 2024 ?
Salut Tom Tom. Nous on fait donc des micro-trottoirs avec Max pour Radio Escapade.
Okay.
Et on a des petits sujets comme ça, on interroge les personnes. Et le sujet du moment, c'est peut-on trouver l'amour sans application de nos jours ?
Ah oui, bien sûr. Okay. Moi j'ai trouvé l'amour, ça fait plus de 8 ans que je suis avec ma femme.
Ouais.
Voilà, je l'ai rencontré place de la Com dans le Monoprix, en face du manège.
C'est romantique.
Ouais.
C'est là, super romantique.
On s'est rencontrés là, c'était j'avais 25 ans quoi. C'est ce que j'aime pas, c'est la sélection comme ça, la va-vite.
La monétisation de l'amour aussi.
Moi j'aime bien.
Le côté consommateur, peut-être.
Voilà, exactement.
C'est un peu comme vendre son âme, non ?
C'est un peu ça, mais du coup, moi j'aime bien avoir le contact avec les gens, les regarder droit dans les yeux et pouvoir avoir une discussion autour d'un café, d'un thé. Voilà, c'est ce que, parce que tout ce qui est les réseaux sociaux à l'heure d'aujourd'hui, c'est bien, mais ça fait pas tout. Donc pour moi, rien de tel que
se mettre... Oh mais vas-y, prends une application, ça pourrait nourrir ton ego et puis tu peux y trouver du plaisir, on sait jamais.
Ah, peut-être, hein.
Il y a de l'intelligence artificielle maintenant.
C'est ça.
Tu peux changer ta voix. Tu consommes avec des robots.
Ouais, voilà.
Mais c'est vrai.
Tandis que là, voilà, on discute autour d'un café et puis on...
Donc au lieu d'avoir des applications, peut-être qu'il faudrait éliminer justement, épurer, minimaliser le truc, presque découvrir l'amour à l'aveugle, tu sais. On se met tous des bandeaux, on se découvre les uns les autres à travers les voix, à travers le ressenti de l'autre, à l'aveugle. Et ensuite, t'enlèves ton bandeau et tu découvres la personne et là, tu te rends compte que, non, physiquement, elle ne m'intéresse pas.
Il y a un bar à Montpellier, justement.
Ça va pas loin l'amour.
Je pourrais pas faire la pub parce que je me souviens plus du nom du bistrot, mais c'est pas un bistrot, c'est vraiment un bar. Il y a une pièce, t'es totalement dans le noir. Et puis tu prends ton.
Fais un repas dans le noir.
Un repas dans le noir, ouais. Et tu vois pas la personne. Juste à la voix. Et puis tu découvres la personne en sortant, quoi.
Alors ça, c'est un truc à essayer.
C'est pas mal.
Ça a l'air pour ceux qui nous écoutent, là, il y a quelque chose à prendre.
Ah ouais, carrément.
C'est sûr.
Bon ben merci Tom Tom,
merci
c'est cool.
Beaucoup.
Merci à vous et puis big up à tout le monde. Hein, je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite une très bonne journée.
De l'amour gratuit. Tom il donne de l'amour gratuitement.
À plus tard.
C'est beau ça.
À plus tard.
Valérie, sors il allait retrouver Gertrude, Simone et Tom, s'engueuler dès que 21h sonnait. Les histoires d'amour finissent mal en général. Les histoires d'amour finissent mal en général. Les histoires d'amour finissent mal en général. Les histoires d'amour finissent mal en général.
C'était les histoires d'A d'Erita Mitsuko, et maintenant une nouvelle chronique de notre grand maître qui nous raconte l'histoire de Dark Jan. Il était une fois dans une galaxie lointaine.
Eh oui, merci Max. Alors c'est le 23 mai 1430 que Jeanne d'Arc est capturée et sera vendue aux Anglais. Jeanne d'Arc voulait bouter, comme on disait à l'époque, les Anglais hors de France. Alors, les Anglais n'ont jamais eu, évidemment, la moindre intention de pardonner quoi que ce soit à la pucelle d'Orléans. Un tribunal sera mis en place et il sera aux mains de l'Inquisition, mais aussi et surtout aux mains des Anglais, puisque l'accusateur public, l'évêque Pierre Cochon, est un très proche du duc de Bedford. Alors, autant vous dire que le sort de Jeanne d'Arc était très très mal engagé. Et c'est le 9 janvier 1431 que le procès s'ouvre à Rouen. Elle sera bien sûr accusée, déclarée et dépeinte comme une adoratrice des démons et une hérétique, c'est-à-dire une dissidente qui ne pensait pas comme il fallait. Elle aura toutefois la vie sauve, c'est du moins ce qui lui est proposé, si elle renonce à ses croyances et si elle reconnaît qu'elle n'était en quelque sorte que des erreurs. Le 24 mai 1431, après plusieurs mois de procès et d'interrogatoires, Jeanne d'Arc est totalement épuisée. Elle est arrivée au bout de sa résistance. Et c'est dans ce moment de faiblesse que, pour avoir la vie sauve, elle va abjurer. Renoncer à toutes les valeurs et ses convictions qui ont permis à la France de se relever et de lutter contre l'envahisseur anglais. Mais quelques jours après, elle revient sur ses propos. Non, elle n'abjure rien du tout. Non, elle ne reconnaît aucune erreur, elle ne regrette rien. Un nouveau procès, assez rapide celui-ci, sera organisé et il va sceller le sort de Jeanne. Elle sera déclarée hérétique et le bûcher pour qu'elle soit brûlée vive va être dressé. Le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc est conduite dans la matinée sur la place du marché à Rouen. 10 000 personnes sont dans les rues, mais personne ne doit adresser la parole à la condamnée. 800 soldats anglais sont là pour s'en assurer et pour empêcher la foule d'approcher celle qui a voulu libérer le pays. À 9h ce matin-là, le bourreau va allumer le bûcher. On peut penser que quelques instants avant sa mort, Jeanne avait encore les yeux en direction du ciel. Mais au fond, a-t-on la preuve que c'est bien Jeanne d'Arc qui est morte sur le bûcher? C'est vrai. Qui, au fond, peut l'affirmer avec certitude? Et si c'était une autre jeune femme qui avait été exécutée à sa place? Ce procès est peut-être une mascarade. Peut-être que Jeanne d'Arc s'est évadée. La population veut croire à la survie de son héroïne et les rumeurs vont bon train. Lors de l'été 1435, une jeune femme, vêtue en soldat, se présente dans une ville de Lorraine. Elle y rencontrera deux hommes, les deux frères de Jeanne d'Arc. Contre toute attente, les deux hommes sont convaincus qu'il s'agit de leur sœur. La ressemblance est peut-être frappante et le discours cohérent. Elle s'est évadée, dit-elle, de prison, puis elle s'est cachée, s'est fait appeler par un autre prénom, Claude. Jeanne, acceptée par les deux frères, vivra en toute harmonie avec eux. Et c'est en 1436 que, revenue d'on ne sait où, la pucelle va se marier à un seigneur qui lui aussi sera convaincu qu'il s'agit bien de Jeanne. L'idée vient à la nouvelle Jeanne d'Arc, en cette même année 1436, et 5 ans après le bûcher, d'envoyer de nombreux messages à destination du roi, qui ne répond pas, pensant sans doute que tout cela n'était pas très sérieux. Alors, Jeanne, en l'absence de réponse, se consacre à sa vie familiale en s'occupant de ses 2 enfants. Mais en 1439, elle décide de passer à la vitesse supérieure et de forcer le destin. Le roi ne veut pas d'elle, il sera bien forcé de la reconnaître malgré tout. Elle va entreprendre un voyage à Orléans. Là-bas, elle sera reconnue par la foule en délire, conviée à des banquets organisés en son honneur et célébrée par la ville. Mais le roi fait toujours la sourde oreille et ne daigne pas la recevoir. Alors, elle va encore aller plus loin et en 1440, elle va à Paris. Et là, tout s'effondre. Alors qu'il n'y avait pas le moindre danger, ni le moindre doute, que le discours était bien rodé et que toute la population était sous le charme convaincu par l'authenticité de son histoire, la jeune femme va tout avouer. Il s'agit en réalité de la veuve d'un chevalier, d'une aventurière qui a combattu dans l'armée pontificale et de retour en France, l'idée lui est venue de se faire passer pour Jeanne d'Arc. Prise sans doute de remords, elle avouera son imposture et je vous laisse imaginer l'énorme déception que ses aveux ont dû causer à la population.
Silence ! Nom, prénom ?
Jeanne d'Arc.
Signe particulier ?
Pucelle.
Pseudonyme ?
Claude, Madame Claude.
Phobie connue ?
Le feu.
Et sinon, comment ça va ?
Tout feu, tout flamme.
Est-ce vraiment la paresse ou trop de quoi ou qu'est-ce? Apparemment, elle est heureuse. C'est la plus heureuse des paresseuses. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligée de soi.
C'est la ouate.
De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Elle est pensive en négligée de soi.
C'est la voix.
Pas bosseuse et tous les beaux mecs s'usent. Elle s'en fout, elle balance son cul avec indolence. Elle s'en fout, elle se balance de savoir ce que les autres pensent. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive. Amour par terre et somnifère.
C'était C'est la Watt, interprété par Caroline Loeb, et maintenant on poursuit avec Mélanie.
Bonjour à tous, bonjour à tous. Et oui, nous continuons avec Max nos pérégrinations dans les rues et sur les pavés, toujours à la recherche de réponses à nos questions, entre sérieux et légèreté, parfois un peu loufoque. En tous les cas, on vous remercie de nous prêter votre voix, vos témoignages et vos pensées.
Ça ressemble à un appareil pour détecter les fantômes.
Ouais, mais c'est ça.
Comme dans Ghost, tu sais, ils ont des appareils, ça détecte.
Non, ça détecte l'amour.
Ah, bah tant mieux.
Oh, Alex.
Oh là 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 là. Bon, l'interview.
Alors, l'interview. Bah écoute, on a envie de te poser une question.
Ouais.
Notre question du moment, c'est: peut-on trouver l'amour sans application?
Comment trouver l'amour sans application?
Est-ce qu'on peut trouver l'amour sans application?
Qu'est-ce que tu veux dire par application?
Ben, les applications de rencontres.
Ah non, 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 non. Ma génération à moi, je ne cherche pas l'amour par application. C'est le destin. Moi, ce n'est pas ma génération, tout ce qui est cherché sur Mythique, machin, ce que je connais. Avec les collègues jeunes qui m'entouraient, ah, Alex, le mec, il m'a, voilà, c'est un pompier. Et puis finalement, je le vois avec une autre, et c'est la même personne avec notre collègue à moi. En fait, c'est le mec qui cherchait plusieurs nanas en même temps sur Mythique.
Un pompier. Ah ouais, bah, ça m'étonne pas. On a interviewé des pompiers et eux, l'amour, non. C'est de la merde.
Ben, ça m'étonne pas. Bon, elle est mal tombée. Et voilà. Donc du coup, elles se sont mises à deux. Elles ont dit, voilà, t'es pas très, très honnête. Voilà. Tu cherches 3-4 personnes et sur les 4, tu vas piocher, quoi. C'est pas possible.
Donc il y a un manque d'honnêteté dans les applications pour toi?
Il y a un manque d'honnêteté. J'en ai trouvé plein de filles comme ça. Une autre, alors là, Stéphanie, alors elle m'a fait rire. Pareil, Mythique, parce qu'à l'époque c'était Mythique, maintenant il y en a d'autres. Anna m'a dit qu'elle avait d'autres. Pour les âges, mais personne plus âgée. Ça m'a fait rire. Mais bon, en attendant, sur Mythique, j'ai une collègue, elle a rencontré 2-3 personnes. Deux, pas trois. Deux, le premier, bon, ben voilà, ils ont une relation. C'était famille recomposée, mais des ados, ils n'ont pas vécu ensemble, ils se fréquentaient. Au bout d'un moment, ça s'est arrêté, ça s'est transformé en amitié. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Mais très rapidement, au bout de 6 mois, il lui demandait de garder ses enfants à lui le week-end pour qu'ils puissent aller sortir en boîte dans les cafés. Donc, il cherchait une copine un peu plus, tu vois, qui pouvait garder ses enfants. Elle a fait une fois ou deux, parce que quand il avait la garde de ses enfants, il n'avait pas la garde, parce qu'il lui disait à elle, voilà, est-ce que tu peux me garder mes enfants? Et voilà, donc elle s'est fait bananer comme ça une fois. Elle a compris le truc, et puis rebelote avec un autre qui faisait exactement la même chose. Elle a dit, bon, ben là.
Et tu penses que c'est parce qu'elle a cherché par le biais des applications que ça s'est passé mal comme ça?
Ça s'est jamais bien passé. Et toutes les personnes que j'ai connues dans le milieu.
Ça sous-entend qu'il y a un côté consommation de l'autre plutôt que
je ne sais pas si c'est consommation, mais je pense qu'il y a des gens qui cherchent sincèrement. Moi, c'était des nanas que je fréquentais, donc elles étaient à la recherche vraiment d'un compagnon. Après, pour les hommes, j'en ai pas connu, des collègues de travail, aides-soignants, la plupart sont homosexuels. Alors. C'est vrai, hein, les aides-soignants, beaucoup sont homosexuels. Hein. Et donc, c'est discret là-dedans. Non, c'est un peu galère. Mais
c'est plus dur pour les hétéros. Hein.
C'est fou. Donc, c'est compliqué quand même. De nos jours, alors que je sais qu'il y a plein de gens qui recherchent vraiment l'amour, hein, vraiment, hein. Les dernières collègues que j'ai connues, là, ici, ben non, c'était par le biais du travail.
Ok.
Une, elle est partie en formation, elle est tombée amoureuse du formateur, il est anime, elle allait faire sa vie solide, ça se passe bien. Une autre, oui, quand même, elle a été sur un site, elle a rencontré quelqu'un qui habite dans l'Aveyron, et ça se passe bien, elle va chez lui quand elle est en vacances, lui qui vient chez elle, voilà, elle est demandée. Franchement, ça se passe bien.
Ok, ben merci en tout cas, Alex. Voilà, merci pour ton témoignage.
Bon, moi, non, moi, je demande à l'univers, et s'il se présente, il se présente. Si je ne présente pas, c'est pas grave.
Voilà, bon, allez, on boit ce café allongé.
Et on se boit le café allongé. Allez.
Ah, il y en a marre, là.
Vive l'amour.
Vive l'amour.
Vive l'amour. Mais oui, vive l'amour, bien sûr.
Check out cuisinier.com. Ouf. Yeah, you know we have to do this one, right? There's no question about it. There's no denying it. This one's going out to you.
Only you.
Ok, yo. Crazy Chris. C'est ça. Ok. Yo. Il n'y a que toi, bébé. Qui fait ce monde, allez bien. Il n'y a que toi, allez viens. Je t'ai préparé quelque chose de beau. Quelle chose de con l'amour, ça ne se contrôle pas. On pourra tout voler, on te volera pas. Parce que toi et toi seulement réchauffe mon corps. Je suis heureux avec toi, alors je dépose mon sort entre tes mains. Ouais, j'oublie tout entre tes seins. Avec toi, je suis le plus sain d'entre tous les seins. C'est un miracle. Toucher toi est admirable. Quand j'avale ma salive, j'ai mal aux amygdales. Avant de te dire à quel point tu es ma favorite, je suis si bien avec toi que le temps passe trop vite. Juste toi, je n'ai plus le choix. Ça se sait, ça se sent. Dès la première seconde, j'ai pu le voir. Toujours surprenant, comme je suis sûr de vendre. Si t'aimes que je te passe de la pommade, tu me demandes.
Tu as ce que je veux et j'ai ce dont tu as besoin. J'ai vu tes yeux qui me regardaient de loin. Bébé, n'aie pas peur, tu peux venir me parler. Il ne faut pas de licence pour pouvoir me charmer.
Tu as ce que je veux et j'ai ce dont tu as besoin. J'ai vu tes yeux qui me regardaient de loin. Bébé, n'aie pas peur, tu peux venir me parler. Il ne faut pas de licence pour pouvoir me charmer.
T'es très belle en plus, tu le sais. Je regarde le ciel comme dans tes yeux. Une inspiration en tout lieu. Une incitation, un vrai jeu. Sexe, symbole, qu'est-ce que t'es bonne, t'adore qu'on te le dise. Connais les codes de séduction, dois-je en déduire que t'es partant, t'aimes la gourmandise. Demande à cuire, je te bouffe toute crue comme un sushi, te mets en boutique à Amsterdam. Je suis un Mac, Chi Doberman, un boy play de choc. Pour une play, mais de charme, j'ai plein de clés en poche pour une virée au large. Quand tu bouges du boule, c'est frais, c'est vrai. J'adore ton rouge à lèvres, c'est clair. Mais je suis marié, tu sais, c'est justement ce qui t'excite en fait. Elles me font des avances, ne savent plus se tenir. Je les mets dans l'ambiance avant de déguerpir. Fais-moi la danse du ventre, fais voir comme t'es gaulé. Fais plaisir à ton Mac, fais voir comme t'es doué.
Tu as ce que je veux et j'ai ce dont tu as besoin. J'ai vu tes yeux qui me regardaient de loin. Bébé, n'aie pas peur, tu peux venir me parler. Il ne faut pas de licence pour pouvoir me charmer.
Tu as ce que je veux et j'ai ce dont tu as besoin. J'ai vu tes yeux qui me regardaient de loin. Bébé, n'aie pas peur, tu peux venir me parler. Il ne faut pas de licence pour pouvoir me charmer.
C'était Seulement Toi de TTC. À toi Jean-Michel.
Nous faisons toujours valser vos idées sur Radio Escapade. 104.1 à Saint-Hippolyte-du-Fort, 102.0 à La Salle, 103.3 à Ganges et au Vigan. Sur internet, dans le monde entier, dans tout l'univers connu, sur www.radioescapade.org. Et maintenant, nous retrouverons Lydia.
Bonjour tout le monde. Je vais vous parler d'histoire d'eau. Alors non, pas Pauline Réage avec son fouet, son bonheur dans la douleur, non, non. Je vais vous parler de ce qui est nécessaire à l'apparition de la vie sur Terre, l'eau. Nécessaire à notre bien-être, on nous le répète assez souvent, il faut boire ses 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Et si un être humain peut vivre à peu près 30 jours sans manger, il lui suffira de 2 à 3 jours sans eau pour clamser, c'est dire si la flotte, c'est la vie. Il faut attendre la fin des années 1980 pour que la quasi-totalité des Français bénéficient de l'eau courante à domicile. Et alors qu'en 2001, 65% des Français buvaient de l'eau en bouteille, aujourd'hui, ils ne sont plus que 48%. Et oui, l'eau en bouteille coûte environ 40 fois plus cher que de l'eau du robinet. Alors bon, la crise, l'inflation, tout ça. Et puis le plastique, ça pollue. Et enfin, le consommateur a confiance dans la qualité de l'eau de son robinet. Enfin, avez confiance. Jusqu'à ce qu'on apprenne que pas du tout. L'eau du robinet d'un tas de communes est en réalité polluée. Et il est conseillé de laisser un peu couler l'eau du robinet, de la filtrer avant de la consommer. Beaucoup de personnes la filtrent, car le goût dans beaucoup de communes de l'eau est infect. Moi, je la filtre toujours, par exemple. Donc, me voilà rassurée. Et puis, j'ai regardé si ma ville était concernée par la pollution. Et pas du tout. Enfin, 90 à 98% de l'eau du robinet est aux normes. Comme je suis optimiste, je me dis que je suis dans le pourcentage safe. On le sait, l'eau du robinet contient des substances genre bactéries, virus, résidus de pesticides, de nitrates, de solvants, de médicaments. Ça vous fait envie, hein? Et donc, les réglementations sanitaires fixent des seuils à ne pas dépasser, notamment les pesticides, très mauvais pour notre santé. Or, voilà que les taux de pesticides dans l'eau du robinet dépassent de plus en plus souvent les normes imposées par la réglementation sanitaire. Enfin, ils dépassaient, ils sont bien maintenant. En février 2021, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, considérait l'ESA-métolachlore et le NOA-métolachlore des produits de dégradation comme pertinents, c'est-à-dire cet herbicide est potentiellement dangereux pour la santé. Mais depuis fin septembre, l'ANSES considère qu'ils sont désormais non pertinents. Conséquence, pour ces deux produits, le taux autorisé dans l'eau potable augmente automatiquement de 0,1 à 0,9 microgrammes par litre. Du coup, ce relèvement de seuil réduit le nombre des personnes concernées par la non-conformité de l'eau distribuée causée par la pollution des ressources hydriques aux pesticides. Et oui, il suffit d'augmenter les seuils d'acceptabilité pour qu'on nous empoisonne. Gentiment. Bon, paraît que c'est pas trop mauvais pour notre santé. Ok, j'ai compris, je vais me mettre à l'eau en bouteille, bien pure, de nos sources. Et oui, c'est cher et le plastique, ça pollue. Mais la santé, ça n'a pas de prix, surtout la mienne. Et la patatras. Le Monde et la cellule d'enquête de Radio France révèlent que les eaux en bouteille reçoivent depuis de nombreuses années des traitements non conformes à la réglementation, notamment en raison de contaminations sporadiques d'origine bactérienne ou chimique. Autorisées sur l'eau du robinet ou sur les eaux rendues potables par traitement, ces techniques de purification sont interdites sur les eaux de source ou eaux minérales naturelles. Celles-ci sont en effet censées provenir de ressources souterraines préservées et ne doivent ainsi pas subir de désinfection. Enfin, en France, elles peuvent être soumises à des microfiltrations inférieures à 0,8 microns par arrêté préfectoral. Pas trop en accord avec la législation européenne qui, elle dit « bah non, hein, de l'eau en bouteille, c'est de l'eau qui sort toute propre de la source ». Il semblerait que la tendance soit ici en France à négocier pour monter le seuil de la microfiltration. Elle n'est pas belle la vie. Non seulement ça, mais parfois c'est de l'eau du robinet mélangée à l'eau de source qui est embouteillée. Il n'y a pas de petites économies. Sans compter que l'eau en bouteille serait contaminée par des microplastiques. En octobre dernier, dans un mail dévoilé par le Canard Enchaîné, le directeur de l'Agence régionale de santé Occitanie écrivait à ses équipes qu'à cause des multiples problèmes de pollution aux polluants éternels et aux métabolites de pesticides constatés, l'eau du robinet ne devrait plus être consommée et qu'il vaudrait mieux désormais privilégier l'eau en bouteille. Mais si l'eau en bouteille est déjà de l'eau du robinet ou filtrée par les mêmes procédés que l'eau du robinet, pourquoi on devrait se ruiner et enrichir les grands industriels genre Nestlé pour boire exactement la même eau polluée ? Je vais citer Jacques Monin, directeur des enquêtes de Radio France sur cette affaire. Cela montre quelque chose de plus grave que la tromperie. La planète ne peut plus absorber tout ce qu'on envoie dans la Terre, que ce soit des métabolites de pesticides, des polluants éternels et toutes sortes d'autres produits. On se rend compte qu'il n'y a plus de véritable eau pure. Bon, finalement, je vais continuer à boire mon eau du robinet filtrée par mes soins. Au moins, ça fera moins de plastique dans la nature. Ou alors, faire comme au Moyen-Âge. À l'époque, l'eau des villes était vraiment non hygiénique, vu que les déchets et excréments y étaient déversés. Bah, comme nous, en fait. Les gens qui buvaient cette eau étaient terriblement malades ou mouraient. Pour résoudre le problème, on faisait venir de l'eau de l'extérieur des villes, où les rivières n'étaient pas polluées. Bon, là, apparemment, ce n'est plus du tout comme nous. L'eau propre, nous, on n'en a plus. Cette eau était transportée par les porteurs d'eau, et cette eau, bah, en fait, elle était réservée aux malades. Quant à l'eau souillée, on la faisait bouillir et elle était mélangée à du vin. Oui, oui, le vin, en ces temps-là, était moins alcoolisé et on en buvait entre 1 à 2 litres par jour. À l'époque, ça leur semblait carrément plus sain de boire du vin plutôt que de l'eau. D'ailleurs, l'hypocras, une boisson à base de vin mélangée à des épices et du miel, était considérée comme un médicament. Quant à nous, aujourd'hui, on ne sait plus trop. On peut tout de même se dire que l'on est privilégié, que les... plus privilégiés que les 700 millions d'habitants de cette planète qui n'ont pas d'accès à l'eau potable. La nôtre n'est plus si potable. Elle va juste nous tuer à petit feu avec des risques de cancer et d'infertilité. C'est vrai qu'également que l'eau en bouteille est malgré tout moins polluée que l'eau du robinet, mais 40 fois plus chère que celle du robinet alors qu'elle ne tient pas toutes ses promesses en matière de pureté, c'est vraiment se moquer du consommateur. Ça serait tout de même sympa qu'on arrête de nous prendre pour des truffes. Allez, à la bonne vôtre.
Thank you.
C'était Smoke on the Water, Deep Purple. Et maintenant, nous retrouvons Jean-Michel.
Salut les loulous, ainsi qu'à tout le monde, ça va ou quoi?
Ouais!
Ouais, j'ai rien entendu! Ouais! Aujourd'hui, nous retournons le 11 février dernier, date mémorable au moins dans la tête de centaines de fans qui étaient présents et présentes aux portes du Rockstore de Montpellier pour le concert des 50 ans de carrière du groupe Ange avec le Cunégonde Tour. Ultime tournée pour le chanteur qui frôle les 80 balais. Musicien, auteur, interprète, Christian Descamps, créateur du groupe, et Francis Descamps et Jean-Michel Brézovard dans la région de Belfort, cela au début des années 70. Cette fois, la relève est assurée avec Christian Descamps, le fils de Christian, au clavier et au chant. Thierry Sidoum à la basse, Benoît Casulini à la batterie et aux percussions et Hassan Hadji à la guitare et au chant. Nous nous balinderons avec Stella, fan depuis toujours, mais nous y sommes presque. Allez, bonne balade en poésie, en émotion et en paix. Salut.
Salut.
Eh bien, on est sur la place de la Comédie, à Montpellier, avec Stella. Voilà. Donc la question se pose, Stella, depuis quand es-tu une folle dangereuse ?
Eh bien, une folle dangereuse depuis 1972.
Oh, ça ne nous rajeunit pas.
Et non. Mais par contre, moi, je reste jeune grâce à Ange.
C'est vrai ?
Eh oui, c'est sûr.
Tu es toujours sur des ressorts ?
Toujours sur des ressorts.
Ah. Après 50 ans de carrière.
Eh oui. Eh oui, je les ai connus à 16 ans. Hein. Je vais dire ça. Mais là, il faut qu'on se dépêche parce qu'on ne va pas être les premiers à attendre.
Ah d'accord.
Ouais, ouais.
Soleil.
Il fait soleil.
On est bien,
c'est
voilà.
Hein?
Et puis moi, ouais, voilà, on va.
Voilà, moi je suis un dangereux.
Voilà. Non, une folle dangereuse.
Ah pardon. Une folle dangereuse, oui, voilà. Oui, aussi.
Voilà.
Aussi, c'est sûr. Hein.
Voilà.
Ils vont heureux en attendant la mort, il dit Christian,
en
répétant ce que disaient des proches. Hein.
C'est clair, c'est clair. C'est clair. Bon ben à de suite.
À de suite.
Je vais parler doucement. Toujours accompagné de Stella. Je parlais doucement parce qu'en fait, on est dans la file d'attente ici, donc on va bientôt rentrer. On a vraiment à l'horizon que des têtes blondes.
Hein? De blondes, blanches. Mais c'est parce que tu es un peu daltonien.
Ah, oui.
Tu vois pas que.
Ah, oui.
Si, si, il y a beaucoup de vieux.
Beaucoup de fous dangereux et de folles dangereuses.
Hein? Et beaucoup de vieux.
Ah.
Des fans de la première heure. Hein?
Oui. On peut le dire comme ça, de la toute première heure.
Alors, votre premier concert de Ange, c'était quand ?
Dans les années 80, je crois.
80.
Moi, c'est le premier.
C'est le premier ?
Ben oui.
Bravo. Pour Radio Escapade, votre premier concert de Ange, c'était quand ?
C'est le premier.
Oh là là.
C'est le premier ?
Non.
Oui, moi.
Ça fait deux, vous êtes deux, vous êtes majoritaire.
Votre 1972 en Belgique.
Comme moi.
Voilà. En Belgique.
Ah, mais moi dans le Nord. Et vous ?
3 et 2, 5, ouais, 80.
80.
80 à tout.
Début des années 2000, je ne sais plus exactement, il y a 20 ans.
Vingtaine d'années, à peu près.
Une vingtaine d'années. Merci.
C'est le 8e.
Merci.
Ah, 7.
77.
C'est là.
78. Là, maintenant, aujourd'hui. D'accord, bravo.
C'était quand
78.
C'est moi qu'il faut dire.
C'est mon premier.
C'est moi qui l'ai emmené.
C'est mon premier.
Si tard.
Moi, c'est mon troisième. Là. Donc, le premier, c'était à Sas. Je ne sais plus à quelle année, il y a 5 ans.
D'accord. Merci. Bonne soirée.
77.
Ouh, 77, ouais.
77, bravo.
77 au Opéra de Toulon.
D'accord.
74.
74.
Première fois que je les vois.
Bravo.
Alors que je les aime depuis 40 ans.
Bravo.
1972.
Ah. Et vous
pareil.
Pareil, merci.
86.
86.
Jamais.
Premier concert.
Premier.
Bravo, ouais. Bienvenue.
C'est le premier.
Bienvenue.
93, j'ai
93 93
78.
78.
Le premier.
Le premier, bravo. 2024, bravo. Et vous
Moi, je les ai vus dans les années 90, mais je ne pourrais pas dire quelle année exactement. Mais par contre, je les ai vus en 2022, 2023, et là, je vais les voir 2024. Et l'année prochaine, j'ai réservé pour l'Olympia.
D'accord. Et voilà. Vous
Premier concert.
Premier concert, bravo.
Le premier disque.
Ouais.
Et vous, premier concert de Ange, c'était quand ?
C'est une première.
C'est une première.
Moi aussi.
Aussi.
Une quinzaine d'années, à peu près.
Pardon ?
C'est la première fois.
Première fois ?
Et moi aussi, je ne les ai jamais entendus.
C'est vrai ? Bienvenue. Et vous ?
1975.
Oui ?
La première fois.
Première fois ?
Il y a 30 ans.
Il y a 30 ans, d'accord.
C'est mon premier. Là.
C'est votre premier ? On a quand même pas mal de nouveaux. Hein. Et vous ?
Oh ben moi, je l'ai vu en Lorraine plusieurs fois. Je l'ai vu à l'Olympia. Ça fait quand même déjà... Mais la première fois, je ne me rappelle pas, par contre. Et vous, vous êtes trop...
Eh bien, moi, je ne l'ai jamais vu.
Bravo.
J'ai souvent entendu, grâce à mon épouse.
Et vous,
il y a deux ou trois ans, la dernière fois qu'ils étaient passés.
D'accord. Bon, je vais arrêter, ça rentre. Merci beaucoup à tous. Il m'a dit, il y a tellement longtemps que j'entends ma femme m'en parler, que j'ai fini par venir avec elle.
Et toi, c'est...
1972.
C'est ton dixième concert ?
Non, un peu plus. Ah. Un peu plus, je ne sais pas, une vingtaine.
Enfin, de ans.
C'est pas beaucoup.
Oui, parce que là, nous sommes dans la salle, on est rentrés dans la salle. Le concert va commencer dans 5 minutes, 10 minutes.
C'est vrai, oula. Ouais. Après, tu ne me parles plus. Hein, parce qu'après, après, j'écoute. Hein. J'écoute, je chante, je gueule.
Okay.
Et je ne parle plus.
Ok, hein. D'accord.
Ok.
Combien vous êtes?
vous êtes de l'autre côté de l'amour. Combien vous êtes, combien vous êtes de l'autre côté du jour. Vous êtes de l'autre côté de l'amour. Je perds la tête, je perds la tête, tout seul dans la cour. Entre ma neige et les chevaux de moi, j'ai quitté le cortège un jour qu'il faisait froid. Je hais les gens qui ont pas de cœur. Je hais les gens qui ont pas de cœur.
Là, la fin du concert, qu'est-ce que tu en penses?
Ben, c'est toujours triste. Hein. C'est toujours triste quand le concert il est fini. On y retourne. En tout cas, super ambiance et puis divin. Divin. Divin.
Merci beaucoup. À la prochaine.
À la prochaine.
On vient d'écouter Aujourd'hui, c'est la fête chez l'apprenti sorcier, extrait de l'album live Rideau de 1995. Et Les yeux d'un fou, extrait de l'album live Escale à Stilan de 2012. Vous pouvez, si vous le désirez, retrouver pratiquement tous les albums de Ange en concert ou en studio sur YouTube ou en écoute gratuite, évidemment. Tapez Ange, album complet. Évidemment, il y a d'autres dates pour le Cunégonde Tour, mais pas dans la région. Pour toutes les autres dates de concert, tapez sur Internet Un Pied dans la Marche, c'est l'association qui s'occupe de la promo du groupe. Vous aurez tous les renseignements. En tout cas, big, big merci à Stella, sans qui la balade aurait eu une autre saveur. Big merci à tous les intervenants. Alors les amis, qui a une devinette maintenant?
Moi.
Tiens.
Ouais. Alors, est-ce que vous connaissez l'origine du bonnet d'âne?
Pas du tout.
C'est Nantes qui est allé à la piscine. Il avait besoin d'un bonnet, du coup. Non.
C'est parce que les ânes sont très têtus, un truc comme ça, ou ils sont
bonnet,
entêtés.
Bonnet obligatoire pour la piscine, ouais, c'est ça.
Ou alors c'est l'âne de Paris, peut-être un bonnet pour l'âne de Paris, non.
Un bonnet. On dit pas un museau pour un âne.
Un museau pour un âne. Qu'est-ce
qu'il dit? N'importe quoi.
Bon, royaume pour un âne.
Mélanie, t'avais un plus ou moins raison, c'est-à-dire que nous, on connaît le bonnet d'âne, enfin maintenant, on ne l'utilise plus, enfin j'espère.
Oh non, c'est interdit.
Voilà, mais c'était pour se moquer un peu de l'enfant, en fait, et on considérait que l'âne était têtu et stupide. C'était vraiment la connotation du bonnet d'âne. Mais en réalité, ça a commencé au XVIIIe siècle. Et à cette époque-là, bah, peut-être les gens étaient plus habitués à voir des ânes à l'époque. Et donc, ils savaient que non, un âne, c'est sage et intelligent. Et donc, on mettait ça sur la tête des enfants. C'était un encouragement pour les rendre sages et intelligents. C'est-à-dire que ça s'est complètement inversé.
Okay.
Et c'était plutôt positif. Alors, en même temps... Sur le coup, j'étais là, ouais, c'est vrai, c'est encourageant, blablabla, ils étaient sages, considérés comme sages et intelligents. Ouais. Mais du coup, je me disais, mais enfin, si on le mettait aux enfants déjà sages et intelligents, pour les rendre plus intelligents, mais ceux qui n'étaient pas très intelligents, c'est à eux qu'on devrait mettre. Mais du coup, si on les mettait à ceux qui n'étaient pas très intelligents pour les rendre plus intelligents et tout, bah, on se disait, bah, il n'est pas très intelligent, en fait, puisqu'il a le bonnet d'âne. Et du coup, je pense que c'est comme ça que c'est arrivé, que bah, celui qui avait le bonnet d'âne, c'était le moins intelligent du groupe. Et après, bah, même le pauvre âne, on a fini par penser qu'il était têtu et stupide. Voilà, c'était ça.
J'ai rien compris.
Bah, je pense qu'il te faudra un bonnet d'âne.
Tu vas donner le bonnet d'âne à Max aujourd'hui.
C'était Faites valser vos idées. Merci à Max, Mélanie, Lydia, Jean-Pierre et moi-même. Merci à Manu. Spéciale dédicace à Gennaro qui nous écoute régulièrement. Big merci et réalisation à Antoine. Merci, à bientôt. Merci, bisous.
Merci.
Merci.
Bisous.